Et prenez avec moi dans la Bible, dans l'évangile de Matthieu chapitre 24. Nous ferons une première lecture. Matthieu chapitre 24 et verset 12. Nous lisons « Parce que le péché ou l'iniquité se sera accru, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Amen. » Nous faisons une deuxième lecture dans la première lettre à Timothée. 1 Timothée, au chapitre 4, petit texte d'introduction, petit par le nombre de versets, mais grand par leur contenu, comme toute la parole. 1 Timothée 4, 15, nous pourrions le dire comme cela, « Occupe-toi des choses de Dieu, donne-toi tout entier à elle, afin que tes progrès soient évidents pour tous. Amen. » Amen. Nous avons terminé un petit peu ou parcouru le culte de dimanche matin par une pensée, une question a été posée par M. Gau. Cette question, êtes-vous satisfait de l'intimité que vous avez avec Dieu et que vous entretenez avec Dieu? Peut-être quelqu'un est nouveau ce soir et ne peut pas dire, moi, je suis satisfait puisque je n'ai jamais eu de relation particulière avec Dieu. Je lui parle bien, je lui fais bien connaître certains besoins quand il se présente, mais à part ça, une relation, une intimité avec Dieu, avec Jésus-Christ, je ne sais pas. Nous allons voir ce soir que Dieu veut nous emmener plus près de lui, plus loin, plus proche de lui, plus loin dans la connaissance de sa personne. Le premier texte et le deuxième texte sont appuyés par deux mots. Le premier, deux verbes. Le premier, c'est le verbe persévérer. Et le deuxième verbe, c'est progresser. Persévérer et progresser, c'est un petit peu ce que Dieu a mis sur mon cœur pour nous ce soir. Persévérer et progresser. Peut-être quelqu'un cherche Dieu dans sa vie. Il ne l'a pas encore découvert, il ne l'a pas encore connu. Et il s'est mis à chercher, se poser des questions, on lui a parlé de certaines choses, il réfléchit. Eh bien, Dieu vous encourage ce soir à persévérer dans votre recherche. Persévérer dans votre quête, parce que Dieu a dit que celui qui le cherche de tout son cœur, à lui il se laissera trouver par lui. Amen. C'est là une grande promesse, de savoir que quand on cherche Dieu, on ne peut pas être déçu. Dieu se révèle à nous de l'accepter tel qu'il est, et non comme on le conçoit nous-mêmes. Hein, on est d'accord, des fois on se fait une idée de comment est Dieu ou qui est Dieu. Vous avez vu le peuple d'Israël, à un moment il s'est fait une image de Dieu, un veau d'or. Pour eux, Dieu, c'était un veau. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est bizarre, hein? Mais ils sortaient du pays d'Égypte, où tous les dieux, puisqu'ils en avaient plusieurs, avaient une forme d'animaux. Et ils ont fait pareil. Un veau d'or, c'était leur Dieu. Et Dieu est venu, il a dit, mais non, qu'est-ce que vous faites? Vous ne me connaissez pas, je ne suis pas comme ça. Et il voulait se révéler pour faire du bien, pour sauver, pour bénir. Alors persévérez si vous cherchez Dieu. Et que ce message puisse vous encourager à continuer, peut-être vous le révéler petit à petit. Persévérez, mais aussi pour progresser. Quelquefois on maintient ce qu'on fait déjà, ce qu'on connaît déjà, on le maintient, on l'entretient, on le cultive. Mais Dieu voudrait qu'on aille encore plus loin avec lui, que l'on progresse. Qui a à cœur de faire des progrès ce soir? Qui veut faire des progrès? C'est une question sérieuse que Dieu nous pose. Comme il a dit à cet aveugle, « Que veux-tu que je te fasse ?» Il le disait, M. Gaudimanche, mais comme si ce n'était pas évident. Mais est-ce qu'on le veut vraiment quelquefois, être éclairé sur les choses de Dieu? Vraiment. Mettre de côté nos préjugés, notre petite connaissance qu'on croit avoir de Dieu, et puis, vraiment ouvrir les yeux sur qui il est vraiment et ce qu'il veut vraiment, puisque se révèle toujours avec sa volonté aussi. Sommes-nous satisfaits? Personnellement, non. J'ai répondu dans mon cœur dimanche matin. Non, je ne suis pas satisfait, moi non plus. Et je pense que tous, on sait, quand on lit un petit peu les évangiles, qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses à découvrir encore de Dieu et à voir de la part de Dieu. Qu'est-ce qu'il a fait Jésus? Allez, aidez-moi. Qu'est-ce qu'il a fait Jésus quand il était sur la terre? Il est resté à un bureau, à écrire la Bible, quelques évangiles ou quoi? Est-ce que Jésus d'ailleurs n'a écrit lui-même aucun évangile ni aucun texte de la Bible. On a répété ses paroles. Il a dit, il est allé au contact des gens. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a guéri des personnes. Est-ce qu'il l'a fait Jésus-Christ? Est-ce qu'encore aujourd'hui Jésus peut guérir? Moi je crois. Il a délivré tout à l'heure quelqu'un qui était tourmenté. Des personnes, plusieurs personnes tourmentées, des fois dans un village entier, tout le monde était apaisé et délivré. Est-ce qu'il peut le faire encore ce soir? Si quelqu'un est tourmenté dans son cœur, tourmenté dans ses pensées, peut-être même possédé parce qu'il a touché à l'occultisme, à toutes ces choses-là, la voyance, toutes ces choses que Dieu a en horreur et qui donnent un accès au diable. Dieu vraiment en horreur ces choses. Et est-ce que Dieu peut pardonner et délivrer quelqu'un ce soir? Moi, je crois. Dieu est le même. Il est vivant. Est-ce que Dieu peut toucher un cœur et lui révéler, eh bien, qui il est ce soir? Moi, je crois. Il veut toujours le faire. Persévérance. Vous connaissez l'histoire des grenouilles? Un jour, deux grenouilles sont tombées dans un pot de crème. Les deux ont failli se noyer et ont commencé à se dire « mais il faut qu'on se débatte, qu'on essaie de sortir ». Les deux ont commencé à faire des efforts pour sortir de ce pot de crème. Et puis au bout d'un moment, l'une d'entre elles disait « tu crois qu'on va s'en sortir ?»« Mais non, je ne sais pas et tout. » On continue en tout cas, on continue. Puis une a été désespérée, elle a arrêté. « Tant pis, allez, je me laisse aller. » Et elle s'est noyée. Mais l'autre a décidé de persévérer, de continuer. Elle n'a pas lâché prise. Tant qu'elle avait des forces, elle les utilisait pour se débattre. Et à force de se débattre, la crème devint du beurre. Et elle a pu monter sur le beurre et sauter en dehors du pot et pouvoir vivre. On va persévérer, hein? On va faire du beurre. Petite anecdote pour nous montrer qu'il faut persévérer. Et une autre, vous avez déjà fait du vélo. Vous vous souvenez quand vous avez appris du vélo? Pourquoi? Eh bien, avancer, chercher à progresser. Parce que quand un vélo, on s'arrête, on tombe. Vous êtes d'accord avec moi? Si on n'est pas en train d'avancer, on peut essayer. Il y en a qui sont experts, hein, ils sont en équilibre comme ça, ils font ça. Mais jusqu'à quand? C'est pas facile. Hein. Quand on avance, ça va. Mais... Et d'ailleurs, pour nous aider à découvrir comment faire du vélo, on nous pousse, on nous donne un élan et on nous dit persévère, continue à pédaler. Et on avance et on avance et on ne sait même pas pourquoi on arrive à avancer et on ne tombe pas. Et dès qu'on freine, boum. Ah, puis on se relève, on recommence et on y arrive de mieux en mieux. Mais avancer pour ne pas perdre ce que j'ai reçu, et pour ne pas reculer, et pour ne pas stagner ni tomber. On va voir le cas de deux personnes dans la Bible. Deux personnes qui ont commencé à avancer dans les choses que Dieu leur demandait, mais qui se sont contentées de peu, et qui ont perdu du temps, et qui ont même perdu beaucoup de choses. La première s'appelle Abraham. Ouvrez avec moi maintenant dans le livre des Actes. Livre des Actes, chapitre 7. Acte 7, verset 2. Étienne est en train d'être écouté. On va bientôt le mettre à mort à cause de sa foi en Jésus. Et il va juste s'exprimer. Il va parler de certaines choses et il nous rappelle un petit peu l'histoire d'Abraham. Étienne va dire donc, chapitre 7, verset 2 des Livres des Actes. Étienne répondit, « Hommes, frères et pères, écoutez. » Le Dieu de gloire apparut à notre père Abraham lorsqu'il était en Mésopotamie, avant qu'il s'établît à Charan. Et il lui dit, quitte ton pays et ta famille et va dans le pays que je te montrerai. Il sortit alors du pays des Chaldéens et s'établit à Charan. De là, après la mort de son père, Dieu le fit passer dans ce pays que vous habitez maintenant. Amen. Il nous est rappelé cette histoire toute simple. Abraham, alors qu'il était dans une tribu, dans une communauté où on adorait toutes sortes de dieux, qu'on pouvait s'imaginer, la lune, les astres, etc., lui avait reçu une parole du Dieu vivant et vrai, du Dieu créateur. Alors que d'autres adoraient la création, lui il a rencontré, il a une parole du Dieu créateur. Alors il a découvert Dieu. Il savait peut-être peu de choses, mais au fur et à mesure de sa vie, il allait en découvrir d'autres. Mais il a eu une parole particulière. Quitte ta famille, quitte ton pays et va dans le pays que je te montrerai. Et dans le livre des Actes, il nous est dit que c'est arrivé avant qu'il s'installe à Charan. Et si on regarde dans la Genèse, on voit que lui et son père sont allés à Charan et qu'ils y sont restés un long moment. J'avais une carte que j'ai pas pu vous afficher, mais quand vous regardez d'où il habitait, il était à Ur. Il est allé à Charan, qui est à plusieurs centaines de kilomètres au-dessus, pour aller ensuite à Canaan. Et dans le livre de Genèse, il nous est dit que dès qu'ils sont partis d'Ur, ils voulaient aller à Canaan, mais qu'ils ont fait halte à Charan. C'est très très fou, où il va en venir jusqu'à présent. Dieu avait dit, je vais t'emmener dans un pays particulier, je veux te montrer des choses particulières. Et lorsqu'après Abraham va vraiment y aller, après avoir fait cette halte, il va s'entendre dire de Dieu, tu vois, ce pays que tu vois autour de toi, lorsqu'il était à Canaan, je vais le donner à ta postérité. Une grande promesse que les Juifs, les Israélites de l'époque, ont vécu et qu'ils vivent encore aujourd'hui. Il va recevoir une promesse particulière, va à Canaan. On voit dans le livre de la Genèse qu'il savait où il fallait aller. Il fallait aller à Canaan, mais avec son père, ils sont partis et ils se sont arrêtés à Charan. Charan veut dire plusieurs choses. Charan veut dire caravane, veut dire montagnard, etc. Mais ça veut dire aussi pays du petit fruit. Pays du petit fruit. Et peut-être que pour quelqu'un qui cherchait Dieu, il s'est arrêté à une simple religion. Peut-être que vous avez adhéré de tout votre cœur et sincèrement à une religion. Certains préceptes, pour certaines bénédictions, trois prières pour tel exaucement, telle formulation pour tel exaucement, tel voyage pour telle bénédiction, etc. Et des lois comme cela. J'aimerais vous dire, il y a encore mieux. Il y a plus grand, il y a plus profond, il y a meilleur avec le Seigneur. Continuez votre route, cherchez encore et cherchez Jésus-Christ. Amen. C'est par lui qu'on découvre Dieu. Et Abraham nous parle aussi en tant que chrétien à nous. Dieu voudrait multiplier les fruits, c'est-à-dire les bénédictions, sa manifestation dans nos réunions, dans nos vies, dans nos prières. Et ce que nous voyons n'est que peu par rapport à ce qu'il pourrait faire. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Est-ce qu'on ne voudrait pas voir toutes les réunions des personnes être guéries? Qu'est-ce que vous en pensez? Ça s'est passé il y a quelques dizaines d'années, en plein centre-ville de Toulouse. D'où cette église ici. Et je crois que c'est pas que pour nos ancêtres, que pour Monsieur de Dieu quand il était un peu plus jeune, ou d'autres. C'est pour nous encore aujourd'hui. Et dans notre génération, dans notre époque, est-ce qu'on croit que Dieu a des choses encore meilleures à nous faire découvrir et plus grandes? Et est-ce qu'on en a soif? Est-ce qu'on les veut? Vous savez, le père d'Abraham s'appelait Térakh. Térakh veut dire délai, halte, retard. Dieu avait dit à Abraham, tu quittes ta famille, tu quittes ton pays. Pourquoi? Je ne sais pas, mais Abraham est parti avec son père et il s'est arrêté là. Halte. Je suis un peu fatigué, je vais faire une pause spirituelle. Où je connais tellement de choses que je vais m'arrêter de chercher. J'ai tellement lu la Bible, je la connais par cœur, je sais tout ce que j'ai en tout cas à savoir. Non, il y a plein de trésors encore à découvrir. Continuons la route. Est-ce que c'est mauvais de partir avec sa famille ou de vivre proche de sa famille? Il faut régler quelque chose là. Est-ce que c'est mauvais? Pas du tout. Dieu, il est pour que les familles soient unies. Ce que ça veut dire dans ce texte, c'est ne te laisse pas influencer par la vie des autres. Mets le focus, fais zoom sur la parole de Dieu. Dieu t'a dit quelque chose, fais-lui confiance. Fais-lui confiance. Abraham est resté jusqu'à la mort de son père à Charan. Et ce n'est qu'après la mort de son père qu'il a pu découvrir le pays de la promesse, le pays que Dieu voulait lui faire découvrir. Il savait qu'il devait aller à Canaan, mais il a fait une pause. Comment cela se fait-il? Peut-être que dans notre vie, c'est notre famille qui dit « Mais pourquoi tu vas à l'église? Pourquoi tu vas passer du temps à l'église? T'as bien d'autres choses à faire. » Et ils ne comprennent pas, ils ne peuvent pas comprendre puisqu'ils n'ont pas goûté à la joie que l'on vit lorsqu'on est dans la communion fraternelle, par exemple, ou lorsqu'on entend la parole de Dieu. Elle touche vraiment notre cœur et nous fait du bien parce qu'on a été touché par le Saint-Esprit une première fois et il continue de nous travailler. Peut-être que c'est votre propre pensée qui te dit « Oh, n'en fais pas trop. Tu sais, il y a tellement de choses. Fais une halte, etc. » Le Seigneur, il dit « Non, le temps sont courts. La vie est courte. Il faut en profiter un maximum, mais en profiter bien. Certains perdent du temps. Le Seigneur voudrait qu'on en gagne. Et c'est pour ça qu'il nous dit des directions, il nous donne des directions à prendre. N'écoutons pas les autres, écoutons la parole de Dieu. Et si nous la mettons en valeur, nous serons bénis et ça bénira les autres autour de nous aussi. Vous êtes d'accord avec moi? Que quand on met la parole de Dieu à l'honneur, il y a une bénédiction qui en découle, non seulement pour nous, mais aussi pour ceux qui nous entourent. La preuve, vous l'avez vu tout à l'heure, on prie pour nos familles. On prie pour nos enfants. Je suis père de trois enfants, je sais ce que je dis. Et si mon fils me dit, je veux une sucette, une ça va, j'en veux deux, j'en veux trois, est-ce que je dois l'écouter? Non, je sais ce qui est bon pour lui. Et si notre Père nous parle, Père Céleste, sachant qu'il veut aussi notre bien et qu'il nous dit des choses bonnes pour nous. Abraham a pris du retard et il est parti que plus tard lorsqu'il avait 75 ans. Je ne connais pas votre âge, si vous avez plus de 75 ans, que Dieu vous bénisse aussi. Mais peut-être quelqu'un est jeune et Dieu l'a appelé à son service. Dieu l'a appelé à se consacrer à lui. dans un ministère particulier ou autre chose, je ne sais pas. Dieu l'a appelé à un choix dans sa vie. Et il y a une pression autour, il y a quelque chose qui fait qu'il retarde ce choix, cette décision. J'aimerais vous dire, ce soir, prenez la décision d'écouter le Seigneur et de lui obéir. Vous et ceux qui vous entourent seront confondus et seront bénis, parce que Dieu vous bénira. Mon père, lorsqu'il a voulu s'engager dans le ministère, sa famille l'a traité de corbeau noir. L'a mis dehors, n'a plus voulu lui parler. Aujourd'hui, quand ils ont un problème, c'est lui qu'ils vont chercher. Parce qu'ils savent qu'il a quelque chose que d'autres n'ont pas. Et merci Seigneur, après tout, c'est comme ça que les choses se passent. Que le nom du Seigneur soit béni. La deuxième personne dont je voudrais parler, c'est la personne de Lot, le neveu d'Abraham. Vous avez vu ce qui s'est passé? Je remets un peu de contexte. Dieu voit Sodome et Gomorre, et en tout, il voit cinq villes. On entend surtout parler de Sodome et de Gomorre. Il voit cinq villes qui vivent dans le péché le plus total. Les envoyés de Dieu, les anges, viennent, ils arrivent à la ville. Lot est aux portes de la ville, sous-entendu, il était une autorité dans la ville. Il sort à leur rencontre parce qu'il sait qu'il ne fait pas bon passer la nuit dans la ville. Vous avez vu dans certains quartiers, quand on sort voir les prostituées, vous savez, pour leur parler de l'amour de Dieu, des fois on voit des voitures tourner. On voit les proxénètes qui tournent. Et des fois, il y a certains quartiers, il fait pas bon vivre. Hein. À Sodome et Gomorre, c'était quelque chose de fou. Il va vers eux, il dit, écoutez, venez à la maison, je vous abrite, et tout, etc. Non, on veut passer la nuit. Si, venez. Il les accueille chez eux. Et qu'est-ce qui se passe? Toute la ville se rassemble devant Lot. Et veut faire du mal, violer ses anges. Des hommes veulent abuser d'autres hommes. Ils croyaient que c'était des hommes. Les enfants sont là pour voir ça. Il y a toute une corruption pas possible. Et les anges vont dire à Lot, écoute, quitte cet endroit. Tu vas partir, tu vas t'échapper parce que Dieu va condamner cet endroit. Dieu va arrêter ça. C'était tellement horrible, il y avait tellement des choses horribles que Dieu qui voit tout, il ne pouvait rester et laisser cela impuni. Et le châtiment va tomber, la colère de Dieu va s'abattre sur ces villes. Et voilà que Lot est appelé à partir. Et il tarde. Et on lit, cette fois-ci dans Genèse chapitre 19 et verset 15. « Dès l'aube du jour, les anges insistèrent auprès de Lot en disant, « Lève-toi, prends ta femme et tes deux filles qui se trouvent ici, de peur que tu ne périsses dans la ruine de la ville. » Et comme il tardait, les hommes le saisirent par la main, lui, sa femme et ses deux filles, car l'Éternel voulait l'épargner. Ils l'emmenèrent et le laissèrent hors de la ville. » Après les avoir fait sortir, l'un d'eux dit « Sauve-toi pour ta vie, ne regarde pas derrière toi et ne t'arrête pas dans toute la plaine. Sauve-toi vers la montagne de peur que tu ne périsses. » L'autre leur dit « Oh non, mon Seigneur, voici j'ai trouvé grâce à tes yeux et tu as montré la grandeur de ta miséricorde à mon égard en me conservant la vie. Mais je ne puis me sauver à la montagne avant que le désastre ne m'atteigne et je périrai. » Voici, cette ville est assez proche pour que j'y m'y réfugie, et elle est petite, oh, que je puisse m'y sauver. N'est-elle pas petite? Et que mon âme vive. Et il lui dit, voici, je t'accorde encore cette grâce, et je ne détruirai pas la ville dont tu parles. Hâte-toi de t'y réfugier, car je ne puis rien faire jusqu'à ce que tu y sois arrivé. C'est pour cela que l'on a donné à cette ville le nom de Tsoar. Avant ce moment-là, cette ville s'appelait Béla. Béla. Et c'est quelque chose d'incroyable. Lot est là, et il dit, « Oh, j'ai pas le temps d'aller à la montagne. » Pourtant, les anges viennent de le dire. On ne peut rien faire tant que t'es pas dans la périphérie où tu ne risques rien. On attend que tu sois à l'abri. Mais lui dit, « Non, mais tu vois, cette ville qui devait être détruite, cette ville où il y a un péché immonde, cette ville, Béla, qui s'appelle Destruction, et engloutir. Cette ville, elle est tellement petite. Tu vois, elle n'est pas petite. Juste que je puisse m'y sauver là. » Le Seigneur lui dit, va à la montagne. Va à l'abri. La montagne représente la présence de Dieu. Un moment d'intimité où on se met à part, on cherche la face de Dieu. Il dit, va là-bas. Quand il y a le péché qui règne, cherche la présence de Dieu pour être protégé du péché. Et lui dit, mais oh, tu vois, cette ville, c'est pas bien grave. Destruction, engloutir. Elle fait pas bon. Ça donne pas envie d'y aller dans cette ville-là. Hein. Imaginez-vous, on dit, voilà, j'habite à Destruction, ou j'habite à qui engloutit. J'ai pas envie d'y aller. Il lui dit, oh, elle est toute petite. Ouais, t'es pas d'accord avec elle, mais laisse-moi un peu y aller. Et il y va, il y passe là. Et ces deux personnes nous font rappeler petit fruit et ce qui est à nos yeux, petit péché. Deux choses qui peuvent nous ralentir. Deux choses qui peuvent nous arrêter dans notre progression. Deux choses qui font que peut-être on va refuser ou on va s'arrêter de progresser avec le Seigneur et de persévérer. Soit parce qu'on se contente de petit peu de Dieu, d'un petit peu de Dieu, d'un petit peu de ses promesses, soit parce qu'on veut garder un petit péché à nos yeux. N'est-il pas petit, Seigneur ? N'est-il pas petit ? Et on tolère des petites choses à nos yeux, mais qui vont nous faire perdre du temps et même peut-être nous démolir, nous détruire et nous engloutir. Quel risque il a pris ? Et quand on regarde ce que ses filles ont fait après avec lui, ça donne pas envie de garder la mentalité de ces filles, de ces villes-là. Je vous laisse le soin de lire tout cela. Le Seigneur nous appelle non seulement à ne pas nous contenter du petit fruit, mais aussi de ne pas tolérer du petit péché soi-disant dans nos vies, de tout lui donner, de chercher toujours à persévérer et à progresser. Vous voulez toujours faire des progrès ? Moi, je veux toujours faire des progrès. Le Seigneur nous demande cela. Veillons à ne pas accepter que du petit fruit dans notre vie et à ne pas tolérer ce qui paraît petit comme péché à nos yeux. Un troisième homme, au contraire, lui, qui va tout faire, qui ne va pas lâcher, qui va aller jusqu'au bout, qui voudra plus de Dieu. Cet homme s'appelle Élisée. Élisée. Je vous invite à ouvrir vos Bibles maintenant dans le livre de deuxième livre des Rois, au chapitre 2, et au verset 1er. Deux Rois, chapitre 2, verset 1er. Lorsque l'Éternel fit monter Élie au ciel dans un tourbillon, Élie partait de Gilgal avec Élisée. Élie dit à Élisée, « Reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie jusqu'à Bethel. » Élisée répondit, « L'Éternel est vivant et ton âme est vivante, je ne te quitterai point. » Et ils descendirent à Bethel. Les fils des prophètes qui étaient à Bethel sortirent vers Élisée et lui dirent, « Sais-tu que l'Éternel enlève aujourd'hui ton maître au-dessus de ta tête ?» Et il répondit, « Je le sais, aussi, taisez-vous. » Élie lui dit, « Élisée, reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie à Jéricho. » Il répondit, « L'Éternel est vivant et ton âme est vivante. Je ne te quitterai point. » Et ils arrivèrent à Jéricho. Les fils des prophètes qui étaient à Jéricho s'approchèrent d'Élisée et lui dirent, « Sais-tu que l'Éternel enlève aujourd'hui ton maître au-dessus de ta tête ?» Il répondit, « Je le sais aussi. Taisez-vous. » Élie lui dit, « Reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie au Jourdain. » Il répondit, « L'Éternel est vivant et ton âme est vivante. Je ne te quitterai point. » Et ils poursuivirent tout de leur chemin. 50 hommes d'entre les fils des prophètes arrivèrent et s'arrêtèrent à distance vis-à-vis, et eux deux s'arrêtèrent au bord du Jourdain. Alors Élie prit son manteau, le roula et en frappa les eaux qui se partagèrent çà et là, et ils passèrent tous deux à sec. Lorsqu'ils eurent passé, Élie dit à Élisée, « Demande ce que tu veux que je fasse pour toi, avant que je sois enlevé avec toi. » Élisée répondit, « Qu'il y ait sur moi, je te prie, une double portion de ton esprit. » Élie dit, « Tu demandes une chose difficile, mais si tu me vois pendant que je serai enlevé avec toi, cela t'arrivera ainsi, sinon cela n'arrivera pas. » Comme il continua à marcher en parlant, voici un char de feu et des chevaux de feu les séparèrent l'un de l'autre, et Élie monta au ciel dans un tourbillon. Élisée regardait et criait, « mon père, char d'Israël et sa cavalerie !» Et il ne le vit plus. Saisissant alors ses vêtements, il les déchira en deux morceaux, et il releva le manteau qu'Élie avait laissé tomber. Puis il retourna et s'arrêta au bord du Jourdain. Il prit le manteau qu'Élie avait laissé tomber, il en frappa les eaux et dit, « Où est l'Éternel, le Dieu d'Élie ?» Lui aussi, il frappa les eaux qui se partagèrent çà et là, et Élisée passa. Les fils des prophètes qui étaient à Jéricho vis-à-vis, l'ayant vu, dirent, « L'esprit d'Élie repose sur Élisée. » Et ils allèrent à sa rencontre et se prosternèrent contre terre devant lui. Amen. Ce texte nous montre la persévérance d'Élisée. Vous l'avez vu ? Élisée, il parle de d'où ? Il parle de Gilgal. Élie lui dit, reste ici, moi je vais à Bethel. Il dit, non, je ne te quitterai pas. Il y va, à Bethel, il dit, reste ici, je vais à Jéricho. Non, je ne te quitterai pas. Il va à Jéricho, reste ici, je vais au Jourdain. Non, je ne te quitterai pas. Il traverse le Jourdain, qu'est-ce que tu veux que tu me poursuis comme ça ? Qu'est-ce que t'attends ? T'as soif de quoi là ? Et il dit, je voudrais une double portion de ton esprit. Je voudrais être rempli. Je voudrais la portion du premier-né. je voudrais quelque chose quand même privilégié, je voudrais quelque chose de privilégié avec toi. Difficile, mais si tu me vois, si tu es là, si tu me regardes, si tu fixes tes yeux sur moi et que tu me vois pendant que je pars, alors cela arrivera, sinon ça n'arrivera pas. Vous croyez qu'il a persévéré ? Il a marché encore avec lui et pendant qu'il marchait, le Seigneur a enlevé Élie et il est parti. J'aimerais vous parler un petit peu. Gilgal veut dire rouler. Rouler. Et ça me fait penser à Jésus, la pierre qui a été roulée lorsqu'il est ressuscité, mais aussi Lazare, la pierre qui a été roulée lorsque Jésus l'a ressuscité. Et certains s'arrêtent à Gilgal. Certains s'arrêtent au jour de leur conversion, de leur nouvelle naissance. Ils sont nés nouveaux, ils ont reçu le pardon de leurs péchés, ils ont découvert l'amour de Dieu, Jésus est mort à la croix pour leurs péchés, tout content, Seigneur, je t'accepte comme sauveur, merci Jésus. Mais ça me suffit. Maintenant, chacun de son côté. Élisée va dire, non, je vais avec toi à Bethel. Bethel veut dire maison de Dieu, je vais aller à l'église. Non seulement je suis sauvé, mais je vais à la maison de Dieu. Je veux me rassembler avec les frères et sœurs, pourquoi ? Parce que Dieu a créé l'église. Et église veut dire ecclésia, c'est ecclésia en grec. Ecclésia, ça veut dire convocation. Dieu convoque ceux qui ont été sauvés par son Fils. Il y a une sainte convocation, et moi je veux répondre présent. Je veux aller à Bethel. De Bethel, ils vont à Jéricho. Et on va voir après, lorsqu'ils repassent par Jéricho, qu'ils disent « le pays est bon par ici ». Ça veut dire ville des palmiers, Jéricho. Ville des palmiers. Les palmiers, ça vous fait penser à quoi ? À l'île ? Aux îles avec du sable ? À la plage ? Jéricho, avant l'ancienne Jéricho, il ne faisait pas bon vivre. Bien qu'il y ait des richesses, il y ait toutes sortes de palmiers et tout ça. Et c'est un peu le pays de la bénédiction. Et c'est vrai que certains, ils vont à l'église, ils veulent bien de la bénédiction de Dieu. Puis après, ça s'arrête là. Je ne veux pas plus. Pas plus. Le Jourdain nous parle du baptême. Jésus a été baptisé au Jourdain, qui descend. Je veux descendre dans l'engagement, je veux aller dans cet engagement. Il a traversé le Jourdain, l'eau s'est séparée en deux, symbole du baptême. Baptême dans l'eau, le symbole de l'engagement. Non seulement il a accepté la bénédiction de Dieu, mais il a voulu suivre Jésus comme on l'a vu dimanche après-midi. Et il voulait encore plus que simplement un baptême dans l'eau. Il voulait une onction du Saint-Esprit. Il voulait que le Saint-Esprit le remplisse à double portion. Il a même fait la place, vous voyez ? Et il est repassé par le Jourdain au retour. Le baptême encore dans le Saint-Esprit. Rempli du Saint-Esprit. Puissions-nous persévérer et dire, oui, si je suis baptisé avec le Seigneur, c'est bien, mais je veux plus, je veux être rempli du Saint-Esprit. Je veux que Dieu habite en moi et me remplisse de son Esprit Saint, de sa vie, de sa présence, pour faire de moi un vrai instrument. Un instrument en tout cas puissant, efficace, parce que rempli de lui. Est-ce que vous croyez encore que Dieu peut baptiser, Jésus baptise dans le Saint-Esprit ? Moi j'y crois toujours, je l'ai vécu, dernièrement on l'a vécu. Il y a des jeunes parmi nous qui l'ont demandé au Seigneur, qui l'ont vécu. Il y a des moins jeunes dernièrement qui l'ont demandé et qui l'ont vécu. Le Seigneur veut le faire, puissions-nous en avoir soif aussi. Et il repasse par quoi ? Par Jéricho. Il faisait bon vivre, mais l'eau était empoisonnée en quelque sorte. Il va purifier cette eau. Il va purifier l'eau quand on est rempli du Saint-Esprit. Ce n'est plus une loi qu'on apporte, mais c'est la grâce. Ce n'est plus quelque chose qui tue, une parole qui tue qu'on donne. Quand on est plein du Saint-Esprit, plein de la présence de Dieu, on apporte des paroles de grâce, des paroles qui donnent la vie, des paroles qui font du bien. Il repasse par Bethel, et là il y avait des enfants qui se moquaient. Peut-être que dans l'église, des personnes se moquent, ou des personnes se moquent de l'église. Et souvent, on lit cette histoire, il y a deux ours qui sont sortis et il est écrit, ils ont déchiré les enfants. J'aimerais vous dire, ce n'est pas écrit déchiré dans le sens tuer. Ces enfants étaient blessés pour montrer qu'on ne se moque pas de Dieu. On ne se moque pas de Dieu. Et il va passer par là et il ne va pas retourner à Gilgal. Il va aller au Mont Carmel. Cette montagne où on retrouve la présence de Dieu, où on se met à part. La montagne de l'intimité. Et puis après, la dernière ville où il va, à Samarie, la montagne où on fait le guet, parce qu'on devient une sentinelle du Seigneur pour veiller sur notre frère, sur notre sœur. Pas surveiller, hein, mais veiller les uns sur les autres. Tout un programme avec le Seigneur, tout un programme avec lui. Et est-ce qu'on le veut ou est-ce qu'on s'arrête un petit peu ? Je parle courtement maintenant de trois victoires que Jésus a acquises à la croix. que Dieu voudrait que l'on vive tous, que l'on peut commencer ou recommencer à chercher ou persévérer pour rechercher. La première, c'est la victoire sur le territoire, une conquête. Est-ce que vous croyez encore que Dieu peut bouleverser tout un quartier? Vous savez, notre silence peut-être qui parle beaucoup. Peut-être qu'on ne croit plus qu'on peut être utile pour que Dieu puisse toucher des cœurs. Moi, je crois que des proxénètes peuvent se convertir, demander pardon à Dieu et ne plus faire sortir de filles dans la rue. Je crois que des responsables de boîtes de nuit peuvent se convertir et fermer les boîtes de nuit et tout ce qui s'y passe à l'intérieur. Je crois que des toxicomanes peuvent donner leur cœur au Seigneur et être délivrés de la drogue. Des alcooliques peuvent être délivrés de l'alcool. Des bars peuvent fermer parce que le propriétaire connaît le Seigneur, rencontre le Seigneur et dit « Mais ce que je fais, il faut absolument que je trouve autre chose. » Et Dieu lui donnera autre chose à faire. Et Dieu bénira cette personne. Je crois que des personnes qui magouillent, qui trichent, etc. peuvent être touchées par la grâce de Dieu et arrêter de faire ça. Comme l'a dit un peu M. Gault, comme on nous l'a rappelé en pastoral, il y a eu un réveil au pays de Galles. Qui, aux yeux humains, peut-être surpasse le réveil qu'il y a eu en France il y a quelques années. Parce que toutes les parties de la société, toutes les personnes riches, pauvres, haut placées, toutes les couches de la société ont été touchées. Et est-ce qu'on croit encore qu'un ministre peut être touché par la grâce de Dieu? Moi, je crois. Est-ce que le maire de Toulouse, est-ce que le maire de Ramonville, on en parlait, il peut être encore touché? Est-ce qu'on croit que dans l'entretien qu'il aura avec M. Gault, ce maire peut vraiment faire la paix avec Dieu? Qui vient dans cette église, qui vient dans une autre. Moi, ce n'est pas ça qui m'importe. C'est que son salut soit effectif et qu'il puisse goûter de la vie qu'il y a avec Dieu, cette vie bénie. Et toutes les personnes, chacun d'entre nous, qu'on puisse participer à cela. Est-ce que vous croyez que si vous êtes sauvés, c'est à cela que Dieu nous appelle? Si nous sommes sauvés, c'est à ça que Dieu nous appelle? Ou est-ce qu'on croit juste que Dieu veut qu'on parle à nos enfants, notre épouse, et c'est tout? Ou est-ce que vous pensez que Dieu voudrait qu'on témoigne à tous ceux qu'on peut rencontrer? Alors c'est pas facile, hein, on est un petit peu timide, mais le Seigneur nous donne, comme je l'ai dit, son esprit pour pouvoir vaincre cette timidité. Il nous donne des encouragements, il nous fait vivre des expériences, il nous ouvre des portes pour qu'on arrive à tendre un évangile à quelqu'un, à lui faire connaître la grâce de Dieu et son plan merveilleux pour sa vie. Amen. Conquête, Ecclésiaste 2:13, j'ai vu que la sagesse a de l'avantage sur la folie, comme la lumière a de l'avantage sur les ténèbres. Est-ce qu'on est de la lumière? On a de l'avantage sur les ténèbres. Vous êtes d'accord? On n'a pas à craindre. On n'a pas à avoir peur. On peut avancer. Conquérant. Ésaïe 54, 2. Élargis l'espace de ta tente. Qu'on déploie les couvertures de ta demeure. Ne retiens pas. Allonge tes cordages. Et affermis tes pieux. Car tu ne te répandras à droite et à gauche. Ta postérité envahira des nations et peuplera des villes désertes. N'est-ce pas la promesse qu'on a héritée aussi en Jésus-Christ? Celle de pouvoir beaucoup de personnes, de pouvoir voir des personnes, beaucoup, eh bien rencontrer le Seigneur Jésus. Jésus reviendra parce que l'Église arrêtera son travail. L'apostasie rentrera dans l'Église et l'Église ne croira plus que Dieu veut l'utiliser pour cela. Est-ce qu'on y croit encore ou est-ce qu'on baisse les bras, comme cette grenouille qui s'est noyée? Deuxième victoire, victoire sur le péché. Jésus est mort pour nos péchés. Jésus a versé son sang parce qu'il fallait qu'il donne sa vie pour sauver notre vie. Ça a été vie pour vie. Jésus a donné la sienne qui était parfaite. Jésus n'a jamais fait de mal. Jésus n'a jamais menti. Jésus n'a jamais triché. Jésus n'a jamais dit un gros mot. Jésus n'a jamais souhaité le malheur à quelqu'un. Jésus a toujours voulu le bien et donné une parole qui pouvait susciter un raisonnement, un sursaut dans le cœur à quelqu'un. Toujours, jamais Jésus n'a été dur pour être dur. S'il a été dur, c'est pour que les gens soient interpellés dans leur cœur et qu'ils réagissent et qu'ils se repentent. Et nous, qui croyons en l'œuvre de Jésus-Christ, qui avons été déjà pardonnés pour nos péchés, croyons-nous encore que non seulement il pardonne, mais il délivre du péché? Peut-être quelqu'un ce soir est encore dans un péché, dans une situation malheureuse, il en souffre, il est désolé parce qu'il est prisonnier de ces choses, il voudrait tellement plaire à Dieu mais il n'y arrive pas. Jésus a vaincu le péché sur la croix. Il a livré l'ennemi en spectacle sur la croix. Il a vaincu, il est sorti triomphant du tombeau. Et si par la foi on croit qu'on n'est plus redevable au péché, alors je vais pouvoir résister au péché. Est-ce que vous comprenez ce que j'ai dit? Si je crois que Jésus est mort au péché, qu'il a cloué le péché, l'acte dont les ordonnances nous condamnaient sur la croix, et qu'il est ressuscité, il a triomphé de la mort qu'accompagnait le péché, alors je crois que puisque maintenant je suis en Jésus-Christ et qu'il vit dans mon cœur, qu'il a accepté cette grâce extraordinaire qu'il nous a fait, il a accepté de venir dans notre cœur, faire du nettoyage, il peut aussi me délivrer parce qu'il a payé pour le péché. Et je ne dois plus rien à ma chair et à mon péché. La victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi, dira 1 Jean 5, 4 il me semble. La victoire qui triomphe du péché, c'est notre foi. Si je crois que Jésus a payé ce qu'il fallait pour que je sois libre du péché, alors j'ai la force de résister au péché. Mais si je ne crois pas que Jésus a déjà triomphé, sur quoi je m'appuie pour résister à la tentation? Sur quoi je m'appuie pour renoncer au péché? J'ai rien. Mais si je crois qu'il a payé et qu'il a fait ce qu'il fallait, j'ai de quoi m'appuyer, de quoi crier à Dieu pour être délivré de mon péché. Romains 6, 13 à 14, ne livrez pas vos membres au péché comme des instruments d'iniquité, mais donnez-vous vous-même à Dieu comme étant vivant de mort qu'on était, et offrez à Dieu vos membres comme des instruments de justice. Car le péché n'aura point de pouvoir sur vous, puisque vous êtes dans la grâce. Amen. Versets 18 et 19, ayant été libérés, affranchis du péché, vous êtes devenus serviteurs de la justice. Je parle à des hommes. Amen. Est-ce que je crois que Jésus peut me délivrer d'un péché que j'ai et que je commets? Je donne une définition, je redonne la définition du péché. Ce n'est pas faire ou ne pas faire quelque chose. C'est manquer le but de mon existence. Pourquoi j'existe? Vous vous êtes déjà posé cette question? Pourquoi j'existe? Moi, plusieurs fois. La seule réponse qui m'a satisfait et dans laquelle j'ai trouvé un épanouissement, c'est celle que donne la Bible. J'existe pour Dieu. Et depuis que je vis pour lui, et quand je vis pour lui, puisqu'il m'arrive des fois d'échouer, mais quand je vis pour lui, je suis béni. J'ai une paix, j'ai une approbation dans mon cœur. Je sais que Dieu est en paix avec moi, Dieu approuve ma vie. Et ça, je ne l'ai jamais trouvé ailleurs. J'ai fumé, j'ai bu, je me suis drogué, j'ai fait toutes sortes de choses, et ça ne m'a jamais satisfait. Mais de savoir que Dieu est en paix avec moi, ça satisfait mon cœur. Je vous parle avec mon cœur. La troisième victoire, la dernière, c'est la victoire dans l'épreuve. Romains 5, 4, la persévérance produit la victoire dans l'épreuve. Acte 20, 19, Paul dit, j'ai servi dans les épreuves. Et 2 Pierre 2, 9 dit, le Seigneur sait délivrer de l'épreuve les hommes et les femmes pieux. Je reviens sur les textes. La persévérance produit la victoire dans l'épreuve. Si je persévère, si je m'accroche au Seigneur dans la tempête, comme l'a dit tous ces chants, hein, ces chants qui nous encourageaient à continuer malgré l'épreuve, malgré les difficultés, à continuer à se réjouir en Dieu pour tout ce qu'il a déjà fait. Si je persévère, alors j'aurai la victoire dans l'épreuve. C'est une parole de Dieu pour quelqu'un peut-être ce soir. Acte 20 disait, j'ai servi dans l'épreuve. Paul dit, j'ai servi dans l'épreuve. Et le diable va dire, fais une pause dans l'épreuve. Fais une halte. Peu importe si tu prends un peu du retard, c'est pas grave. Paul, il a trouvé la solution. Qu'importe l'épreuve, qu'importe les circonstances, moi, je vais servir Dieu. Je vais faire ce qu'il me demande, tout simplement. Je vais l'aimer. Je vais le chercher en priant au pied de mon lit. Je vais dire, Seigneur, viens me visiter. Viens dans mon cœur encore plus. Révèle-toi à moi. Fais-moi connaître ta personne en lisant la Bible. Seigneur, qui tu es? Révèle-toi à moi. Et le Seigneur s'est délivré de l'épreuve les hommes et les femmes pieux. Pieux, être la piété, c'est avoir du respect pour les choses de Dieu, aimer les choses de Dieu et faire ce que Dieu demande. La piété, c'est se mettre à l'écart du péché. Toutes ces choses, je ne reviens pas dessus, Monsieur Gault l'a expliqué. Je conclue comme ça. Imaginez que Jésus avait été partisan du petit fruit. Je leur accorde juste le salut, mais après ce n'est que des esclaves, et je leur donne rien d'autre, ils font leur vie comme ils veulent, enfin, ils se débrouillent comme ils peuvent, et puis verra qui arrivera à la fin, et puis là-haut on réglera les comptes. Imaginez-vous que Jésus ait juste dit, allez, je vous pardonne vos péchés, maintenant vous êtes mes esclaves, vous êtes juste des esclaves, et qu'on raye de la Bible. Quand le malheureux crie, l'Éternel l'entend, et il le délivre de toutes ses détresses. parce que c'est en Jésus que je peux obtenir cette grâce d'être entendu de Dieu. Si Jésus avait dit juste le salut et aucune grâce, aucune bénédiction, aucun secours, rien du tout. Qu'on raye de la Bible, psaume 34, 8, « L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent, il les arrache au danger. » S'il dit « Non, non, je ne vous protège pas. » Si Dieu, Jésus n'aurait pas fait cela et qu'on raye de la Bible encore, Matthieu 28, 20, « Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Si on rayait, vous êtes des héritiers. Si on rayait, vous serez assis avec moi sur le trône. Si on rayait, par ces meurtrissures, nous sommes guéris. Si on rayait, le Père pourvoira à tous vos besoins. Et etc. Vous connaissez la multitude de promesses qui sont dans la Bible. Si Jésus avait été partisan du petit fruit, on serait bien malheureux. Parce que toutes les épreuves, toutes les fois où on crie à Dieu et où il nous répond, toutes les choses que j'aurais pas vécues avec lui, il m'a guéri de l'hépatite B, il y a plein de choses que je pourrais raconter, et chacun pourrait dire, nous qui avons connu le Seigneur, combien il est bon envers nous. C'est pas vrai? Il pourvoit nos besoins. Certains, il nous donne un travail, il nous donne les papiers, comme j'ai dit tout à l'heure, etc., etc. Et il est disponible 24 heures sur 24. S'il n'avait pas donné la prière, toutes ces choses. Mais Jésus, il a été jusqu'au bout. Il a donné sa vie jusqu'au bout. Toute sa vie sur la terre, ses 33 ans et demi, à peu près, il les a donnés pour nous sauver, et pour Dieu, pour satisfaire son cœur. Et il a donné sa vie sur la croix. Si Jésus avait dit, oh, un petit péché, toute son œuvre aurait été mise par terre. Alors puissions-nous nous dire, non Seigneur, je ne veux pas que d'un petit fruit. Non Seigneur, je ne veux pas tolérer un petit péché. Ça demande des efforts, hein, ça demande de la persévérance, ça demande de la foi surtout. Mais le Seigneur, il est là. Victoire dans l'épreuve, victoire sur le péché, et victoire pour gagner du terrain, pour qu'un maximum connaisse la grâce de Dieu, et sa bénédiction, et sa paix, et sa joie, etc. Amen. Vous savez, la première des victoires dans l'épreuve, pour un malade, c'est pas d'être guéri. La victoire, elle commence quand je fais confiance à Dieu. Au moment où je commence à faire confiance vraiment à Dieu, j'ai déjà la victoire. Parce que pourquoi le diable nous ferait passer par des épreuves, par exemple, nous tenterait, si ce n'est pour détruire notre foi? Tente-le, fais ça, et tu verras s'il ne te renie pas en face. C'est pas ça? Et si moi je dis non, malgré l'épreuve, malgré la maladie, malgré la difficulté, malgré la mauvaise nouvelle, je fais confiance, je suis déjà victorieux. La victoire, c'est d'avoir la foi en Jésus-Christ. Amen. Et en sa parole. Merci Seigneur de nous rappeler ces choses. Tu sais ce dont on avait besoin. Tu sais ce que les cœurs avaient besoin d'entendre ce soir. Je prie pour que quelqu'un ait eu la réponse, pour que un maximum ait eu la réponse, pour que chacun puisse en tirer quelque chose pour sa vie ce soir. C'est ta parole avec simplicité. Peut-être que lorsque tu es venu sur la terre, les gens s'attendaient à beaucoup de remous, beaucoup de révolutions, beaucoup de guerres. Tu es venu avec simplicité et tu attendais à ce qu'on te fasse confiance et qu'on ait foi en toi. Ce soir, il n'y a pas eu, Seigneur, de démonstration, il n'y a pas eu de show, mais avec simplicité, tu attends qu'on ait la foi en ta parole, simplement, comme des enfants, ont confiance dans un Père qui les aime. Aide-nous à avoir cette foi-là, cette simplicité en toi. On ne veut pas d'une religion avec des préceptes, on veut plus encore. On veut ta vie, on veut ta présence, on veut ta parole et on veut ton amour, Seigneur. Pour nous-mêmes, aimer, parler et vivre pour toi. Que ton nom soit béni et que cette assemblée soit riche de toi, Seigneur. Et nous savons que tout le reste nous sera donné par-dessus tout. Amen.